Et toi, Joséphine, pour la chronique écho du direct de l'Avent, tu vas nous parler du foie gras.
Eh oui, Ambre, après le houmous, ce délice absolu, parlons d'un aliment bien plus controversé et beaucoup, beaucoup moins vegan. Le foie gras, cette préparation culinaire à base de foie de palmipèdes, est principalement consommée pendant les fêtes de fin d'année et c'est aujourd'hui l'objet de ma chronique écho spéciale Avent. Mais pourquoi un édito écho sur le foie gras, me demanderez-vous? Eh bien, pour de nombreuses raisons. La filière du foie gras génère plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et 100 000 emplois directs ou indirects. À quelques jours des fêtes de Noël, ce sont des milliers de canards et d'oies qui sont gavés en France pour produire du foie gras, qui persiste encore à être considéré comme un symbole de la culture nationale française. Et c'est vrai que la France est l'un des rares pays où cette pratique barbare est encore tolérée au nom de la culture. L'ensemble des pays d'Europe ont pourtant signé en 1998 une directive sur la protection des animaux d'élevage qui stipule qu'aucun animal ne doit être alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles. Fin de citation. Le gavage est de facto considéré comme illégal, mais certains pays de l'Union européenne vont plus loin et ont également inscrit cette interdiction dans leur propre législation. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de l'Irlande, de l'Italie, de Luxembourg, des Pays-Bas, de la Pologne, de la République tchèque, du Royaume-Uni et de la Suède, ainsi que de la région de Bruxelles, qui ont précisé dans leur législation l'interdiction de pratiquer le gavage, considéré unanimement comme une pratique cruelle. C'est aussi la démarche de nombreux pays extra-communautaires comme l'Argentine, l'Australie, le Brésil, certains États des États-Unis ou encore l'Inde, Israël et la Turquie. Ainsi, contrairement à ses voisins européens, la France soutient l'industrie du foie gras au nom de la tradition et au mépris des lois françaises et européennes sur le bien-être animal. Mais pourquoi ? Pourquoi la France continue-t-elle cette pratique et quels enjeux ça soulève ? Aujourd'hui, je vais vous présenter les enjeux politiques, éthiques et surtout économiques du foie gras, c'est-à-dire du gavage. Car oui, le foie gras est bien indissociable du gavage, contrairement à ce qu'ont pu dire des politiciens soucieux de leur image publique, mais ne souhaitant pas voir disparaître des buffets municipaux le foie gras quand même. Car le foie gras est fabriqué à partir d'un foie malade, provoqué par le gavage forcé. Commençons peut-être par expliquer comment ça se passe pour ces oiseaux. Alors, chronologiquement, il s'agit tout d'abord de sélectionner les canetons mâles, puis de leur sélectionner une partie du bec. Les canetons femelles, elles, sont considérées comme un déchet de l'industrie du foie gras et sont tout simplement broyées. Les canetons mâles sont ensuite envoyés dans des bacs d'élevage où ils sont préparés au gavage, c'est-à-dire que leur alimentation est rationnée de façon à rendre leur jabot élastique, en alternant grande quantité de nourriture et privation de nourriture. Au bout de 80 jours, la phase de gavage commence. Ça consiste à enfoncer dans l'œsophage des oiseaux un tuyau métallique et à envoyer dans le jabot de l'oiseau de grandes quantités de mixture à base de maïs, d'eau et d'additifs que l'oiseau est alors contraint d'avaler. Le gavage perturbe alors le fonctionnement du foie. C'est normal. Les oiseaux gavés développent ainsi une maladie du foie appelée stéatose hépatique, ce que nous, les humains, on appelle aussi le foie gras. Le foie malade d'une oie, ou d'un canard atteint après gavage presque 10 fois son volume normal, entraînant bien sûr d'autres maladies comme des problèmes pulmonaires et locomoteurs, et entraînant ainsi une surmortalité qui est estimée 7 à 20 fois plus élevée que chez les oiseaux non gavés. En tout, la phase d'élevage dure en moyenne 80 jours et la phase de gavage environ 2 semaines, à la suite de quoi les canards et les oies sont envoyés à l'abattoir. Je vous passe les détails sur les conditions d'abattage et je vous renvoie vers les vidéos de L214 qui documentent très bien tout cela. Si on compte, donc, ces oiseaux sont ainsi abattus au bout de 3 mois, alors même que l'espérance de vie d'un canard se situe autour de 8 ans, quand une oie peut quant à elle vivre plus d'une vingtaine d'années. Les oies qui subissent le gavage vivent donc seulement 1,25% de leur espérance de vie, et les canards 3% de leur espérance de vie. Si on compare la situation d'un canard gavé à celle d'un humain ayant une espérance de vie de 80 ans, c'est comme si on envoyait à l'abattoir des bébés âgés de 2 ans, après les avoir gavés pendant les 3 derniers mois de leur vie. Maintenant qu'on sait ce que c'est que le gavage, qui donne donc le foie gras, on peut comprendre les enjeux qui y sont liés. L'enjeu éthique, tout d'abord, vous sautera aux yeux. Non seulement on peut difficilement parler de bien-être animal quand on enferme ces oiseaux, qu'on entrave leur liberté, quand on s'approprie leur corps et qu'on les met à mort, surtout si tôt par rapport à leur espérance de vie. Ça, c'est pourtant le sort qui est réservé à l'ensemble des animaux d'élevage. Mais là, dans l'industrie du foie gras, parmi d'autres, il y a en plus d'autres sévices corporels qui provoquent une grande douleur physique et psychologique chez les oiseaux, qui sont, on ne le rappelle jamais assez, des êtres sentients, c'est-à-dire capables d'éprouver subjectivement du plaisir et de la douleur et d'être conscients d'éprouver ces sensations eux-mêmes. L'enjeu est aussi économique. Car si la France continue d'autoriser le gavage et valorise autant le foie gras, c'est non seulement pour des raisons identitaires, la France, sacrée championne du monde de la barbarie, mais aussi pour des raisons économiques. Avec l'interdiction du gavage à l'étranger, la France semble être en situation de monopole sur le marché mondial du foie gras. D'après France Agrimaire, c'est plus de 20% de la production française de foie gras qui est exportée à l'étranger, ce qui fait de la France le leader mondial du foie gras. Mais la France est pourtant de plus en plus concurrencée par la Bulgarie et la Hongrie, les deux autres mauvais élèves de l'Europe. La grippe aviaire a également porté un coup au secteur du foie gras, qui a non seulement causé l'abattage préventif de millions de canards et d'oies en France, mais qui a aussi refroidi les principaux importateurs de foie gras français, comme le Japon. Par ailleurs, les exportations diminuent chaque année, les consommateurs internationaux réprouvant les pratiques cruelles de gavage. La France doit ainsi compter de plus en plus sur son marché national, qui se voit aussi concurrencé par des offres végétales, sans souffrance animale, meilleures pour la santé et surtout pour l'environnement. Peut-on espérer la fin de cette production délétère ? J'ose affirmer que oui.
Merci beaucoup Joséphine. Est-ce que tu aurais quelques recommandations pour finir ?
Eh oui, je vous invite à lire l'ouvrage de l'économiste Romain Espinoza qui s'intitule « Comment sauver les animaux ». Il y montre comment la discipline économique peut penser la condition animale et comment il est possible de l'améliorer et avec quels outils. Il explique en économiste de nombreux phénomènes comme le paradoxe de la viande, quantifie la désutilité introduite par l'élevage et l'abattage de milliards d'animaux par an, car oui, en France, c'est 1,2 milliard d'animaux terrestres qui sont tués dans les abattoirs français, soit plus de 3 millions d'animaux abattus chaque jour. L'ouvrage de Romain Espinoza est très accessible et extrêmement pertinent. Aussi, je vous renvoie vers un podcast absolument passionnant qui s'appelle « Comme un poisson dans l'eau ». Chaque épisode, ce podcast décortique le spécisme, cette idéologie fondée sur le suprémacisme humain et consistant à ne pas prendre en compte ou à moins prendre en compte les intérêts similaires des autres animaux, en particulier l'intérêt à vivre et à ne pas souffrir. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Merci beaucoup, Joséphine.